Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, Requiem pour la droite catho. Bonjour Céline Béraud.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Vos travaux portent notamment sur la sociologie du catholicisme et vous avez publié en 2015 aux éditions de la Maison des sciences de l'homme avec Philippe Portier, Métamorphose catholique. Alors s'il est une qualité qu'on ne peut pas contester à François-Xavier Bellamy, c'est son sens de la contrition. Tête de liste inattendue des Républicains pour les européennes, il en assume le mauvais résultat jusqu'à demander pardon aux militants pour ce qui restera une des pires défaites de la droite française sous la Ve République. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, pouvait-on presque entendre dans la bouche de ce catholique convaincu, autrefois compagnon de route des Veilleurs, un mouvement de jeunes opposés au mariage pour tous, un itinéraire qui lui fut rappelé pendant toute la campagne. Mais comment pouvait-il en être autrement, puisque c'est ce parcours, justement, sur lequel avait misé Laurent Wauquiez pour relancer la droite. Paris, tout sauf stupide, en tout cas a priori, puisqu'en 2016, lorsque François Fillon remporte la primaire face à Alain Juppé, il le doit en grande partie à l'électorat catholique, en tout cas celui qui s'est structuré dans le sillage du mouvement Sens commun. La défense des valeurs traditionnelles en est la matrice. Dans une Europe où le sentiment de vulnérabilité constitue un des ingrédients de la crise, François-Xavier Bellamy rassure. Mieux, il secoue la droite, il la réveille pour reprendre quelques-une des magazines qui lui sont consacrés. Alors au soir du 26 mai, c'est la dégringolade, 8,48% des voix exprimées. Les catholiques pratiquants, toujours très mobilisés lors des rendez-vous électoraux, ont massivement migré du côté de La République En Marche et d'Emmanuel Macron. S'agit-il d'une simple escapade ou d'une rupture plus durable ? Requiem pour la droite catho, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Céline Béraud. Commençons par dire un mot de cette tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, qui incarnait une certaine idée de la droite. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il incarnait une certaine idée du catholicisme ?
Oui, c'est la conjonction entre un engagement à droite et un engagement catholique qui a fait l'attrait probablement de ce candidat pour Laurent Wauquiez et, comme vous le soulignez tout à l'heure, son itinéraire. C'est-à-dire que il s'engage en politique à la fin des années 2000, me semble-t-il, mais il va vraiment prendre de l'ampleur, enfin une forme de visibilité au moment des débats relatifs au mariage pour tous.
Mais du coup, Céline Béraud, quelle famille, quelle composante du catholicisme est-ce que lui, vous diriez qu'il incarne, en quelques mots ?
Alors, c'est un grand débat entre sociologues, politistes et historiens, parce que on est face à un catholicisme français qui est aujourd'hui extrêmement pluriel. Et il y a tout un travail qui a été engagé, notamment au début des années 2000, par mon collègue Philippe Portier, pour essayer de trouver les bonnes typologies, pour rendre compte, en fait, d'une recomposition interne au catholicisme, et notamment du glissement du centre de gravité du catholicisme, d'un catholicisme plus à gauche, qui était celui des années 70, vers un catholicisme plus conservateur, plus à droite, qui va se mobiliser sur d'autres thématiques que la question des inégalités, que la question des migrants, qui était celle de la génération précédente, et qui vont être très actifs dans les débats sur la bioéthique, dans les débats sur les questions de genre, sur la famille, sur la fin de vie, etc., etc.
Et c'est un positionnement qui manifestement n'aura pas suffi à convaincre suffisamment les électeurs catholiques pratiquants, puisqu'on connaît le résultat de la liste menée par François-Xavier Bellamy. Il s'en est excusé le lundi devant le bureau politique des Républicains. C'est ce que rapporte le Canard enchaîné. Pardon de ne pas vous avoir amené à la victoire. Pardon de vous avoir déçu. Et le lendemain, il s'en expliquait à nouveau sur l'antenne de LCI.
Hier, lors du bureau politique des Républicains, vous avez demandé deux fois pardon. Pourquoi avoir demandé pardon ?
J'ai employé ce mot parce que, d'abord, ça a été un immense honneur pour moi de conduire cette liste, de sentir partout en France la confiance que me témoignaient sur le terrain beaucoup de Français, qui, je crois, à l'occasion de cette campagne, ont retrouvé une ferveur, une envie de croire à la politique. Ça a été une belle campagne. À tous ces Français, j'aurais tellement aimé pouvoir leur offrir le résultat qu'ils espéraient, et force est de constater que je n'ai pas réussi. Quand vous êtes tête de liste, si vous réussissez, je suppose que si on avait fait un beau score, tout le monde me l'aurait attribué. Il n'y a aucune raison que je m'exonère de ma responsabilité devant cet échec, parce que c'en est un. Il faut le dire, non pas pour se lamenter, mais parce que je crois que Il ne faut surtout pas être dans une forme de déni de réalité qui serait bien sûr catastrophique. J'assume ma responsabilité et je crois que la politique commence aussi par là.
Céline Béraud, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de François-Xavier Bellamy ?
Elle est assez juste dans le sens où il y a, me semble-t-il, un double échec. Premier échec, c'est que la liste des Républicains ne recueille que 8% des suffrages, ce qui est le score le plus catastrophique qu'elle a connu au cours des décennies passées. Et il y a un second échec, c'est justement dans la capacité à rallier ce que serait ce vote catholique qui fait rêver la droite depuis le moment mariage pour tous.
Or, oui, mais on peut subir des échecs et ne pas forcément les accepter et les prendre à sa charge, comme le fait François-Xavier Bellamy. Il y a aussi ce qui a beaucoup été noté, c'est-à-dire c'était presque, je crois même que dans la salle, quand il a fait cet acte de contrition devant les militants, les Républicains, quelqu'un qui, paraît-il, dans la salle a crié « mais c'est pas un curé dont on avait besoin ».
Oui, il a une posture là de repentir qui est très catholique, il a son... Effectivement, c'est son excis catholique qui ressort. Mais je crois qu'il y a quand même un... Enfin, permettez-moi de finir le raisonnement que je tenais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un vrai échec et la Croix le montrait en début de semaine hein, sur qui a voté pour... Enfin, où ont voté les catholiques pratiquants réguliers. Alors, qui sont une toute petite minorité aujourd'hui en France. Hein, c'est à peu près 5% de la population, un électorat plutôt plus âgé hein, que la moyenne. Et en fait, les catholiques pratiquants réguliers qui avaient voté à 44% pour François Fillon en 2017, lors du premier tour de la présidentielle, n'ont été finalement que 22% à voter pour Bellamy et ils ont choisi d'abord, à 43%, la candidate LREM.
Alors justement, essayons de comprendre pourquoi seulement 22% des catholiques pratiquants qui ont voté se sont portés sur la liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy, alors que c'était un candidat qui leur était spécialement destiné, Céline Béraud. Comment est-ce que l'expliquer ? Est-ce que ça veut dire peut-être déjà, par exemple, qu'on surestime en partie l'appartenance religieuse dans le choix qui est fait des différentes listes et des différents candidats. Alors, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est catholique qu'on va forcément voter pour un catholique.
Ouais. Alors là, cette idée d'un vote catholique qui est entré vraiment dans le débat au moment de la présidentielle de 2017 et qui est revenu ici hein, à l'occasion des européennes, en fait, il n'existe pas. Hein. Mon collègue Yann Raison du Clusiou parle de, j'aime bien cette expression, de chimère du vote catholique. Il a raison. Hein, le vote catholique n'existe pas parce qu'il est très pluriel. Et je pense que là, on le voit très bien autour des européennes. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, ces catholiques ? Ils ont choisi un positionnement pro-européen, probablement. Vous savez que les catholiques, les chrétiens, plus globalement, ont été très engagés dans la construction européenne. Et on trouve dans cet électorat-là des convictions européennes très fortes qui semblaient beaucoup plus portées par la candidate LREM que par le candidat LR. Finalement, l'erreur de diagnostic sera été de réduire cet électorat aux enjeux conservateurs de mœurs, aux enjeux moraux. Il y a d'autres enjeux, et par exemple, la question de la construction européenne.
La liste menée par Nathalie Loiseau était censée incarner le progressisme. En tout cas, c'est l'alternative telle que l'avait proposée Emmanuel Macron, qui s'est beaucoup impliqué dans cette campagne. Est-ce que ça peut vouloir dire également, Céline Béraud, puisque pour rester sur les chiffres hein, qui étaient ceux de la Croix suite à un sondage de sortie des urnes de l'Institut IFOP, 37% des catholiques pratiquants ont choisi la liste de la République en marche.
Est-ce que c'était aussi 43% des pratiquants réguliers.
Oui, c'est alors ce qui est encore plus impressionnant. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'était aussi peut-être un choix en faveur d'idées dites progressistes et que là aussi on surestimerait la dimension conservatrice de l'électorat catholique ?
Alors ça, certes, de réduire l'électorat catholique à des positions conservatrices est une erreur parce que c'est ne pas voir la pluralité interne des catholiques. Si on reprend, par exemple, le premier tour de la présidentielle de 2017, il y a des catholiques qui ont voté Benoît Hamon, des catholiques qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Il reste des catholiques à gauche, hein, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu le centre de gravité qui s'est déplacé vers la droite. Mais moi, je n'ai pas trouvé que Nathalie Loiseau ait incarné un mouvement très progressiste. La question des valeurs a été très peu portée par elle, me semble-t-il. Ce qui a été, en revanche, très fermement affirmé, c'est cette conviction européenne, le fait, alors que le projet européen connaît une crise historique sans précédent, hein, et ça, Macron, c'est vraiment un des fils de sa position depuis son élection, hein, c'est cette confiance qu'il a dans le projet européen, la volonté de s'y investir, et je pense que ça a pu être un élément finalement plus attractif que les questions relatives au mariage des couples de même sexe, à la PMA pour toutes, ou encore à la fin de vie.
Sachant que pour l'instant, Emmanuel Macron, sur ces questions sociétales, n'est pas forcément très très clair sur ce qu'il souhaite faire. En revanche, alors il envoie quand même depuis un certain temps des signes, justement, à cet électorat catholique. C'est un président qui va à la messe. Bon, c'est pas le premier, mais enfin, en tout cas, il y va. C'est un président qui célèbre Jeanne d'Arc. Enfin, en tout cas, quand il était encore ministre et candidat, il allait aux célébrations de Jeanne d'Arc. La destruction partielle de la cathédrale Notre-Dame à Paris, il promet de la reconstruire en 5 ans, donc on voit bien aussi qu'il y a quelque chose de très fort. Il cite Bernanos, Georges Bernanos, lors de sa seule conférence de presse à ce jour, c'était le 25 avril dernier, je cite le président, « Est-ce qu'on change jamais ? L'avenir le dira. Comme dit Bernanos, on a sa conscience pour soi. » Finalement, est-ce que la droite catho, qui fait l'objet du titre de notre émission aujourd'hui, Céline Béraud, elle ne se retrouve pas aussi dans la personne d'Emmanuel Macron?
Emmanuel Macron a été très habile de ce point de vue-là. Depuis qu'il a été élu, il n'a cessé de donner des gages à cet électorat. Ce qui n'était pas du tout gagné. Parce que si on se remet dans le moment de l'entre-deux-tours de la présidentielle 2017, Emmanuel Macron est présenté justement par cette droite conservatrice comme le candidat anti-famille. Hein, comme un candidat qui non seulement est libéral d'un point de vue économique, ce qu'il n'a jamais caché, ce qui s'est d'ailleurs confirmé ensuite, mais aussi un libéral du point de vue des mœurs, celui qui libéraliserait la PMA en ouvrant à toutes les femmes, celui qui serait favorable à une évolution jurisprudentielle pour la reconnaissance des enfants nés par GPA, etc., etc. Et même sur la question de la fin de vie, hein, il est présenté comme quelqu'un de très ouvert. Or, qu'est-ce qui va se passer depuis qu'il est élu? Il y a un effet de paralysie énorme, c'est-à-dire que la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, alors qu'il s'était engagé pendant la campagne en disant qu'il y était personnellement favorable, on sait que c'est un dossier qui n'a cessé d'être reporté. Alors, on en est là maintenant, la prochaine échéance serait cet été, mais ça a été tellement de fois reporté qu'on peut rester un peu dubitatif. Et il y a un effet de paralysie parce que je crois qu'il a eu très peur de voir ces foules catholiques, conservatrices, descendre dans la rue comme elles l'avaient fait sous François Hollande. Hein, probablement. Et il donne des gages, et vous avez cité des moments particuliers, je crois que le discours aux Bernardins, hein, où il souligne l'importance, la part importante du catholicisme dans ce patrimoine, dans l'histoire française, etc., a été un élément très très bien reçu par des catholiques de droite modérée et au-delà probablement. Et la façon aussi dont il a géré les suites de l'incendie de Notre-Dame a aussi été très habile et lui a probablement attiré au moins une forme de respect chez cet électorat qui ne lui était pas gagné.
Vous évoquez ces foules qui s'étaient manifestées justement contre le mariage pour tous. Il en avait parlé d'ailleurs au moment de sa candidature dans une interview à l'Obs, en disant que ces foules avaient aussi été humiliées par la teneur des débats pendant justement le débat parlementaire sur cette question. Alors justement, ces foules, en même temps, c'est sans doute ce qui a fait penser à Laurent Wauquiez, à la direction des Républicains, que c'était un socle, sans doute un socle important pour aller à la bataille des européennes. Il faut dire qu'en plus, François Fillon, comme je le disais en ouverture d'émission, avait remporté quand même la primaire en jouant aussi sur cette partie de l'électorat. Est-ce que ça veut dire que, là encore, c'est quelque chose qui a été surestimé, c'est-à-dire que ce qui semblait faire une partie, en tout cas, du socle électoral des Républicains, cette droite catholique, n'était peut-être pas aussi importante qu'on l'imaginait. Elle était peut-être plus médiatique que véritablement, comment dire, sociologique.
Oui, très probablement. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de très grand étonnement de voir ces foules catholiques descendre dans la rue, se mobiliser pendant des mois. C'était un grand étonnement parce qu'on ne pensait plus les catholiques capables de se mobiliser de la sorte. Mais la question, c'est comment transformer ce qui est une protestation de rue, finalement, en une forme d'efficacité politique. Alors, ça a été des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a eu d'une part une volonté des militants de la Manif pour tous de peser à droite, comme un lobby d'abord, en imposant une charte, notamment au moment des municipales de 2014, puis directement en envoyant des candidats. Il y a eu aussi la création donc de Sens commun à ce moment-là. Donc il y a cette volonté de peser à droite, sachant que un des succès, c'est ce qu'on avait montré dans le livre avec Philippe Portier, ce qui permet le succès de cette mobilisation, c'est les alliances politiques qui sont nouées à droite, hein, avec un certain nombre de parlementaires qui sont le relais de cette cause dans l'arène parlementaire. Et de manière symétrique. On est à un moment où la droite connaît une crise importante. Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu. Il y a une forme de recomposition de la droite. Et donc, il y a cet espoir, tout à coup, qu'il y aurait un électorat, une niche, dont on pourrait attirer des faveurs.
Et ça, d'ailleurs, ça va quand même se manifester. C'est-à-dire, c'est un espoir qui n'est pas seulement une illusion, hein, puisqu'on va quand même voir justement cette mobilisation très importante qui s'inscrit dans une histoire forcément un petit peu plus longue. C'est-à-dire, c'est pas non plus une génération spontanée. Non. Et dans Métamorphose catholique, vous évoquez ce qu'a peut-être été, ce qu'a sans doute même été un tournant, en tout cas pour l'électorat catholique français. Et peut-être au-delà d'ailleurs, c'est à la fin des années 70, début des années 80, l'arrivée d'un nouveau pape, pape révolutionnaire.
France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme le fait les ministres au moment du baptême. Je l'ai posé par sollicitude pour l'Église, dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur.
Voilà, ce pape, c'est Jean-Paul II. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'une messe et qu'il célèbre au Bourget le 1er juin 1980. C'est donc en France. En quoi, Céline Béraud, ce pape va marquer un tournant pour l'électorat catholique et aussi pour, disons, les sujets de préoccupation de cet électorat?
Alors, il va d'abord marquer un tournant pour le catholicisme et notamment pour le catholicisme français, parce que le pape Jean-Paul II, c'est le pape de la nouvelle évangélisation. Alors, c'est pas lui qui l'invente, hein, son prédécesseur Paul VI, dès le milieu des années 70, appelle à ce qu'il appelle une annonce explicite de la bonne nouvelle. Et cette annonce explicite, elle doit se faire de manière privilégiée dans les pays de vieille chrétienté, qui seraient menacés par le processus de sécularisation et par des formes d'athéisme militant. Donc Jean-Paul II, pape polonais, avec le charisme qui est le sien, avec les voyages qu'il va faire partout dans le monde, et plusieurs fois en France notamment, va appeler à un autre rapport, à un repositionnement des catholiques, un autre rapport au monde qui soit beaucoup plus visible et beaucoup plus explicite. Pour le dire les choses un peu rapidement, on sort de plusieurs décennies d'enfouissement, hein, de la présence chrétienne qui doit être peu visible mais efficace par son action dans la société. Et là, il s'agit de réaffirmer clairement son identité. Et ça va être repris par des évêques français, par des jeunes générations de prêtres, des jeunes générations de catholiques qui vont vouloir réaffirmer leur présence dans l'espace public. Il y a plusieurs indices, hein, des prêtres qui se remettent à porter un habit distinctif, alors que les prêtres de la génération précédente ne pouvaient se reconnaître souvent à une petite croix posée sur leur veste ou leur pull. La construction, je pense notamment à ce qu'a fait le cardinal Lustiger à Paris d'un nouveau programme d'église qu'il bâtit à la fin des années 90, début des années 2000, qui sont des églises dont l'architecture est pensée de manière très fine pour être un symbole. Et elles sont très visibles dans l'espace public, alors que les églises qu'on avait construites dans les années 50, 60, 70 ne se donnaient plus à voir dans l'espace urbain. Et c'est aussi, et là on rejoint le politique, c'est-à-dire, c'est aussi des fidèles qui vont avoir une forme de militantisme en lien là aussi avec ce que va prôner Jean-Paul II, notamment un ordre, la nécessité de respecter un ordre naturel, donc un ordre intangible voulu par Dieu qui s'impose aux questions de sexualité, à la question de la vie de ses débuts, à sa fin, et donc ils vont aussi être des militants, notamment des militants bioéthiques sur la question de la bioéthique, puis sur les questions de genre.
Oui, parce que vous écrivez dans votre livre, après avoir été longtemps attaché à la question sociale, le discours du champ catholique s'est reconstruit autour de la contestation des politiques de l'intime. Ça veut dire qu'on abandonne un champ qui était plus celui justement des questions sociales pour aller davantage vers les questions sociétales. Et ça serait ça aussi la matrice oui. de ce catholicisme de droite qu'on voit gonfler progressivement oui. dans les années 80 avec, par exemple, autre date importante, bien entendu, c'est juin 1984 et la manif pour la défense de l'école libre. Céline Béraud.
Alors, si vous voulez, les catholiques qu'on va avoir au moment du mariage pour tous, ils sont le fruit d'une socialisation à la fois religieuse et politique qui les prépare d'une certaine façon et qui effectivement trouve son origine dans les années probablement 90 avec des groupes dont on mesure pas complètement l'influence de manière précise, mais dont on connaît l'importance. Je pense à la communauté de l'Emmanuel, par exemple, hein, qui va faire une socialisation très forte de ses membres aux questions politiques, aux questions de bioéthique, aux questions de genre, etc. Et là, donc, c'est vraiment cette socialisation à la fois religieuse et politique qui va produire tous ces effets, qui va tout à coup apparaître sur le devant de la scène publique et politique, alors que bien sûr elle est à l'œuvre déjà depuis probablement une vingtaine d'années.
Sans forcément d'ailleurs que ce soit proportionnel, c'est même, peut-être même plutôt l'inverse, à l'importance de cet électorat catholique, Céline Béraud. Ceci expliquant peut-être d'ailleurs
tout
cela.
Tout à fait. En fait, ce qui d'un point de vue subjectif est très important pour ces militants catholiques, c'est le sentiment très aigu qu'ils ont de devenir minoritaires. Et ça, il y a vraiment une perception qu'ils évoquent d'ailleurs eux-mêmes, parfois sur le registre de la victimologie, hein, en disant qu'ils sont traités comme des minorités et qu'il y aurait même une forme de christianophobie qui s'exprimerait à leur égard. Et effectivement, c'est-à-dire que plus ils se sentent minoritaires et plus ils doivent affirmer publiquement, donner à voir ce qu'il reste du catholicisme. Alors que pour les générations précédentes, qui s'appuyaient sur une institution encore très présente, ce travail-là n'était pas à faire par les individus. Il y avait une forme, l'institution s'imposait par elle-même.
Sachant qu'ils ont les ressources, bien qu'étant minoritaires, pour oui. donner à voir justement ces revendications.
Oui, moi ce que je dis souvent, c'est qu'ils sont en train de devenir, d'abord en train d'eux, n'exagérons pas non plus le phénomène, parce que ça reste le premier groupe confessionnel, même si il est en déclin depuis plusieurs années. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est une minorité religieuse, pas comme les autres. Hein. Il se trouve que je travaille aussi sur l'islam et que les ressources dont disposent les catholiques et les musulmans n'ont absolument rien à voir parce que, justement, ils ont encore les ressources que leur procure leur passé majoritaire. Hein. Et on l'a vu au moment du mariage pour tous, c'est-à-dire cette capacité à s'appuyer sur un réseau territorial très important, les paroisses, les diocèses, cette capacité à avoir des relais politiques, cette capacité à avoir des relais dans les médias, cette capacité à se faire entendre et à mobiliser ses troupes.
Et c'est peut-être du coup ce qui explique Céline Béraud que l'on donne parfois une importance démesurée à ces groupes par rapport à ce qu'ils pèsent véritablement électoralement ouais. et qui expliquerait qu'il y ait eu un certain nombre de une dans la presse avec la candidature Bellamy en disant bah voilà ça y est le renouveau de la droite il est là et puis on a vu qu'avec les élections il n'était pas tout à fait présent.
Il y a une double myopie d'une certaine façon. D'abord c'est de surestimer ces groupes qui sont statistiquement les catholiques pratiquants réguliers c'est moins de 5% de la population française. Et c'est aussi de réduire le catholicisme à ce catholicisme conservateur. Et au moment du mariage pour tous, il y a eu une forme d'unanimisme qui a été cultivée par les militants et aussi par les évêques qui étaient engagés dans le mouvement en disant que finalement, être catholique, c'était nécessairement être contre la loi pour le mariage pour tous. Et ça, probablement que les observateurs et observatrices de l'événement se sont laissés piéger par cet unanimisme qui cachait en fait une pluralité interne beaucoup plus grande sur ces questions-là.
Et cette pluralité, eh ben c'est notamment le rôle de la presse et de la presse catholique, sans doute que d'en témoigner. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Quand on pense quotidien catholique, on pense évidemment immédiatement au journal La Croix. Comment est-ce qu'un journal comme celui-ci se positionne dans les débats qui engagent la foi catholique? Eh bien, vous avez posé la question à son directeur.
Oui, parce que ce journal, donc La Croix, dont vous parlez Hervé, est le grand quotidien catholique de référence et donc par excellence l'un des organes par lesquels s'exprime et se forge une opinion publique catholique. Mais comment les journalistes de ce quotidien conçoivent-ils leur rôle pour faire vivre ce débat d'idées? Eh bien justement, j'ai posé la question à Guillaume Goubert, directeur de La Croix.
Alors, nous, nous occupons une position centriste dans le paysage. Nous avons fait un choix qui est celui d'un catholicisme, d'un christianisme qui va à la rencontre du monde contemporain, qui ne cherche pas à s'en protéger, à s'enfermer ou à se retirer dans une forteresse à partir de laquelle on s'exprime. Non, nous, on a fait le choix d'aller à la rencontre des opinions qui ne sont pas les nôtres pour essayer de les comprendre, pour essayer aussi de faire entendre notre différence dans l'approche des sujets, mais on est toujours dans cette idée de dialogue avec cette image de la croix comme un pont où circule dans les deux sens.
Et pour être précis et concret dans la compréhension de ces enjeux, il faut revenir à un événement qui a suscité beaucoup de débats parmi les électeurs catholiques, les mobilisations anti-mariage gay à partir de 2012. Le journal a accordé une large place dans ses colonnes à ces mobilisations, mais certains lecteurs auraient aimé que le journal aille encore plus loin.
Nous avons été à ce moment-là fortement attaqués, le terme est peut-être un peu fort, mais mis en cause par certains milieux catholiques qui trouvaient qu'on aurait dû être l'organe officiel de l'opposition à la loi Taubira. Or, nous avons fait un choix qui était différent. Je cite souvent la parole du grand rabbin de France de l'époque à qui on demandait sur ce sujet s'il appelait à manifester et il avait répondu « Non, j'appelle à réfléchir ». Et je trouve que ça dit assez bien ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire que nous avons essayé de mettre à la disposition de nos lecteurs tous les éléments du débat de façon à leur permettre de réfléchir, à se forger leur propre opinion, éventuellement à renforcer leur propre opinion, mais à connaître les arguments de l'autre, de façon à pouvoir entrer en discussion avec lui, entrer en débat.
Et preuve que cette séquence politique a laissé des traces dans la vie du journal et chez les lecteurs, ce débat a refait irruption en septembre dernier lorsque les lecteurs de la Croix ont eu la surprise de trouver un encart publicitaire de « La Manif pour tous » dans leur quotidien, dirigé donc contre l'extension de la PMA. Une initiative très diversement appréciée par les catholiques eux-mêmes.
Alors effectivement, au mois de septembre de l'année dernière, on avait accepté de publier, de poser sur le journal une enveloppe qui contenait un message de la Manif pour tous. Et moi, ça ne me choquait pas dans la mesure où je trouve que la Manif pour tous est un mouvement qui est excessivement diabolisé et je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de participer au débat public. Mais j'ai été très surpris, frappé par la réaction de nombreux lecteurs qui se sont manifestés pour dire non merci, en gros. Je pense que ce sont des catholiques qui ont souffert au moment du débat sur la loi Taubira d'une image caricaturale de leur foi qui a été alimenté par les manifestations de la Manif pour tous, et donc qui ont, en gros, nous ont dit « on va pas recommencer, on va pas repartir dans cette direction ». Et c'est vrai que c'était intéressant parce que ça montrait qu'il y avait au sein de l'opinion catholique une part de ce groupe qui n'entendait pas embrayer automatiquement derrière les plus engagés et les plus radicaux des militants anti-mariage gay.
Voilà, c'était Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix.
Et ça renvoie à ce qu'on disait, Céline Béraud, de cette volonté d'une partie de l'électorat catholique de ne pas être essentialisé, c'est-à-dire de considérer que parce que l'on est catholique, on va voter d'une manière ou d'une autre. Je rappelle le titre qui était celui de notre émission aujourd'hui, Requiem pour la droite catho. Requiem, vraiment?
En tous les cas, deuxième échec. Après celui des présidentielles, second échec.
Et ben c'est sur cette note conclusive que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Merci beaucoup donc Céline Béraud d'avoir participé
Merci
à cette émission. Je rappelle votre livre que vous avez coécrit avec Philippe Portier, Métamorphose catholique. C'était aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, et on peut encore le trouver même s'il date de 2015. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyre Le Gras, avec à la prise de son Florent Bujon, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. On se retrouve lundi à 18h20 dans Du Grain à Moudre et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.